Mon invité aujourd'hui, c'est Alain de Benoît, le philosophe. On a évoqué il y a quelques jours sur Care News son nouveau livre « Nous et les autres » aux éditions du Rocher. Il y a aussi un autre livre d'Alain de Benoît qui sort au même moment, un relevé de notes assez passionnant qui s'appelle « L'exil intérieur » aux éditions Crisis. Alors un entretien avec Alain de Benoît est toujours un événement, mais cette fois-ci la situation est différente. Il faut savoir que le philosophe est invité sur tous les plateaux de télévision à l'occasion de la sortie de ses deux nouveaux livres. Et puis Jacques Julliard, qui est un intellectuel de gauche, a lancé le débat en écrivant dans le magazine Marianne. Alain de Benoît est un des grands intellectuels les plus méconnus de notre temps. Jacques Julliard cite les trois grands intellectuels de notre époque à ses yeux, Michel Onfray, Pierre-André Taguieff et Alain de Benoît. Eh bien, Alain de Benoît est mon invité. Alors, Alain de Benoît, on a évoqué nous et les autres il y a quelque temps. Maintenant, il y a aussi L'exil intérieur, un livre très particulier, on peut dire.
C'est un livre très personnel qui est un peu en marge des nombreux ouvrages que j'ai publiés jusqu'ici. C'est un, il faut le dire d'entrée de jeu pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Il s'agit de réflexions, d'aphorismes, de citations, de choses très personnelles que j'ai notées comme ça sur des petits bouts de papier pendant 30 ans. Qui se sont accumulés dans une boîte et puis que j'ai ressorti au bout de 30 ans pour voir s'il y avait des choses qui méritaient d'être gardées, d'être publiées. Et ça a donné quand même un livre d'environ 250 pages. Voilà.
Pourquoi maintenant ?
Bon, parce que, pour des raisons, je dirais peut-être physiologiques, c'est-à-dire que j'aurai 80 ans cette année, c'est l'âge où on fait un peu des bilans et on est tenté de parler en toute franchise et à titre un peu personnel. Je crois que c'est quelque chose de normal. C'est pas quelque chose qu'on fait quand on est très très jeune. Ça demande du recul, ça demande de la mise en perspective qui ne s'acquiert, faut bien le dire, qu'avec le temps et donc avec l'âge.
Alors, il y a un fil rouge quand même dans cet ouvrage, au fil du temps, c'est finalement cette tristesse face à la montée de l'inculture, un monde qui est de moins en moins beau. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on a retrouvé dans tous les temps et à toutes les époques, au changement d'époque, on trouve que c'est plus laid, que les gens sont plus idiots. Voilà, grosso modo. On l'a toujours entendu.
Oui, on l'a toujours entendu, je dirais même comme un refrain de génération en génération. Ah, c'était mieux avant. Mais vous savez, quand les gens disent c'était mieux avant, qu'est-ce que ça signifie au fond ? Ben, c'est simple. Ça signifie avant, j'étais plus jeune. Avant, c'était le temps de mon enfance, c'était le temps de mon adolescence. Et quand on arrive à la vieillesse, on a une nostalgie de cette époque-là et on, par contagion naturelle, on est tenté d'idéaliser un peu cette époque-là. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a quand même pas fait le tour du problème, parce que en dehors de cette perception subjective, il y a quand même des choses qui montrent dans l'époque actuelle un déclin objectif. Quand on prend les différents secteurs de la création, de la peinture, de la sculpture, de l'architecture, du cinéma, de la chanson, on a quand même l'impression un peu d'une perte de niveau. On voit bien que le système scolaire est aujourd'hui en pleine crise, que la crise touche à peu près tout. Les institutions, le système de santé, crise politique, crise de la démocratie libérale, crise écologique, crise spirituelle, intellectuelle, morale. Je dirais que cet état de crise généralisé est au fond caractéristique des grandes périodes de transition, d'interrègne. Nous voyons s'effacer un monde que nous avons connu et parfois aimé, et puis nous voyons se dessiner un autre monde que nous connaissons encore mal parce qu'on ne le perçoit pas totalement, mais qui nous intrigue et à certains égards nous inquiète. au XVIIIe siècle, il y a eu la philosophie des Lumières et l'idéologie du progrès, qui a été une vision très optimiste des choses. On se disait que le présent était forcément meilleur que le passé et que l'avenir serait encore meilleur que le présent. C'était l'époque de ce qu'on appelait les lendemains qui chantent. Aujourd'hui, les gens regardent l'avenir plus avec inquiétude qu'avec confiance. Et ça, c'est très révélateur, n'est-ce pas ?
Avez-vous remarqué, Alain Benoît, qu'il y a de plus en plus de jeunes, on va dire 20 ans, 30 ans, même 35 ans, qui s'adressent à leurs aînés ? Et là, ça, c'est nouveau à propos du « c'était mieux avant ». Avec la question suivante, j'ai l'impression que c'était mieux avant. Et ils le disent.
Ben, certains le disent, pas tous.
Quand ils voient des films
parce que pour dire c'était mieux avant, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'il y avait avant. Et malheureusement, à l'école, on n'apprend plus beaucoup ce qu'il y avait avant. Alors, vous avez raison, il y a le cinéma. Le cinéma est très intéressant parce qu'il y a une fonction à la fois ethnographique et documentaire du cinéma, qui n'est pas seulement un art et encore moins seulement un divertissement. Lorsque vous regardez des films qui ne sont pas très vieux, qui datent des années 50, 60, 70, ben vous voyez une société, vous voyez même, je dirais, des types humains qu'on ne voit plus aujourd'hui.
Les films de Claude Lelouch marquent bien cette société.
Oh oui, on pourrait donner 1000 exemples, Pierre Freinet, Louis Jouvet, Jean Gabin, Alain Delon et que sais-je. Et là, si les gens ont un peu d'esprit critique, ils disent, mais qu'est-ce qui a changé? Et puis, est-ce que ça a changé en bien ou est-ce que ça a changé en mal? Mais vous avez raison de parler du cinéma, parce que ça aide beaucoup à susciter ce genre d'interrogation. C'est pour ça que s'il est vrai qu'à toute époque, il y a eu toujours des regrets traditionnels de choses qui avaient disparu, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui a pris une telle ampleur que, encore une fois, la baisse de niveau, pour prendre une formule, il y a beaucoup de petits talents, il n'y a plus beaucoup de grands génies, l'enlaidissement du monde, l'uniformisation du monde, la marchandisation du monde, tout cela a atteint quand même des niveaux qui n'avaient jamais été vus. Et évidemment, c'est ce qui nourrit les inquiétudes dont je parlais à l'instant.
Est-ce définitif ? C'est finalement la question qu'on doit souvent vous poser. Est-ce que quand on regarde, est-ce que ça peut disparaître ? Est-ce qu'on est en train de vivre la chute de l'Empire romain ? Voilà, puis c'est terminé, puis autre chose va apparaître.
Ben, vous savez,
ou est-ce qu'on peut renaître ?
Ah, c'est évidemment la grande question, et moi je ne fais pas profession de lire l'avenir, donc je ne vais pas vous dire, voilà la solution. Je crois au contraire que les deux sont possibles. Les deux sont possibles et que ce sont les choix que feront les hommes eux-mêmes d'aller dans le sens d'une renaissance ou d'aller dans le sens du chaos qui donneront la réponse. La seule chose qu'il faut garder en tête, c'est que l'histoire est imprévisible. Elle est le domaine de l'imprévu. Elle est toujours ouverte. Et que l'erreur que l'on fait souvent, c'est de croire que ce que l'on vit aujourd'hui ne va cesser de se reproduire, voire de s'accélérer à l'exponentielle. Non, pas forcément. Parfois, il y a des événements tout à fait inattendus, il y a des effets de cliquet qui jouent, et puis ça repart dans un autre sens. Regardez d'ailleurs en arrière, regardez derrière nous, et vous verrez que les événements les plus importants de ces 10, 20, 30, 40, 50 dernières années, peu de gens finalement les avaient prévus.
Dernière question, la question des libertés individuelles, Alain de Benoît, notamment à travers les contrôles sociaux. Les libertés individuelles, c'était pas un thème que l'on retrouvait souvent, pas un thème prédominant chez vous. Et là, vous semblez le mettre... si vous en parlez, c'est que ça vous inquiète.
C'est-à-dire que je vois bien, comme vous, autour de moi, autour de nous, se mettre en place à la faveur de telle ou telle circonstance. Un jour, c'est la lutte contre le terrorisme. Un jour, c'est la nécessité de préserver les enfants de ceci et de cela. Un autre jour, c'est l'épidémie de Covid-19. Un autre jour, etc., etc. On voit se mettre en place une société de contrôle et de surveillance dont les anciens régimes totalitaires du XXe siècle pouvaient seulement rêver. Imaginez le nombre de choses que on connaît de vous par le simple fait que vous êtes connecté à toutes sortes de choses, à toutes sortes d'objets, à toutes sortes de procédures qui permettent finalement, si l'on s'intéresse particulièrement à vous, de savoir en quelques clics qui vous êtes, ce que vous faites, quels sont vos hobbies, où est-ce que vous vous déplacez, où est-ce que vous allez en vacances, quelles sont vos opinions politiques, quels sont les journaux que vous lisez, et quantité d'autres choses. C'est le fameux problème des données personnelles, des data, n'est-ce pas, hein, gérées par les algorithmes, à l'époque de où on voit bien que l'intelligence artificielle va prendre dans notre vie d'individu connecté une importance de plus en plus décisive sans qu'on puisse exactement savoir jusqu'où cela va aller. Donc c'est un sujet, là aussi, forcément, d'inquiétude. Parce que les libertés, il ne faut pas oublier qu'elles sont toujours de nature. Il y a les libertés individuelles, vous et moi, et puis il y a les libertés collectives. Il y a la liberté des peuples, il y a la liberté des nations, il y a la liberté des cultures de persister dans leur être historique. L'idéologie libérale s'occupe beaucoup des libertés individuelles, beaucoup moins des libertés collectives, mais moi je suis de ceux qui pensent que je ne peux pas être libre dans un pays qui ne l'est pas.
Et la vraie question est de savoir si nous sommes encore totalement libres. Peut-être pas par la volonté du pouvoir politique, mais par sans doute la volonté souvent des idéologies dominantes. Le philosophe Alain de Benoît, merci d'avoir accepté mon invitation, Alain de Benoît. Un entretien avec Alain de Benoît, c'est toujours un événement. Alain de Benoît est l'un des trois grands intellectuels de notre époque. Il y a Michel Onfray, Pierre-André Taguieff et puis Alain de Benoît. Et bien Alain de Benoît était sur Care News.